Alors peut-être, en guise d'introduction, j'aimerais faire une petite révision, juste au moins pour vous donner le titre de mon message aujourd'hui, le voici, « Analyse des derniers jours ». Analyse des derniers jours. Et ça va être le chapitre 3 et les versets 1 à 9. Mais laissez-moi reculer juste quelques instants pour réviser ce que nous avons déjà vu, pour nous mettre dans le bain du contexte. Alors vous rappelez que Timothée est un jeune pasteur, et l'apôtre Paul l'a envoyé à Éphèse, pour y mettre en ordre une église qui était là-bas. Et alors nous avons vu dans le chapitre 1 et le verset 6 à 7 que Timothée est un pasteur découragé. Au verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Donc voilà, ce jeune pasteur passe par une période de honte. Est-ce qu'on peut dire qu'il met son ministère en question? Possiblement. Bref, Paul est en prison à Rome et il écrit à Timothée pour l'encourager. Au chapitre 1, il utilise 11 exhortations ou 11 méthodes, si on peut lire ça, comme ça, pour l'encourager. Et je ne vais pas le faire en détail, mais il utilise ces 11 choses. Premièrement, l'autorité. Deuxièmement, l'amour. Troisièmement, la prière. Quatrièmement, la compassion. Cinquièmement, la proximité. Sixièmement, le passé. Septièmement, l'exhortation. Huitièmement, la théologie. Neuvièmement, son propre exemple. Dixièmement, l'exemple de déserteur. Et onzièmement, l'exemple d'un homme loyal. Et par ces exemples, il encourage Timothée à persévérer. Au chapitre 2, Paul continue dans son encouragement de Timothée à persévérer dans son ministère, mais cette fois-ci, il utilise 8 analogies de la vie chrétienne pour le faire. Et ça aussi, on l'avait vu. Il utilise l'analogie d'un formateur, deuxièmement d'un soldat, troisièmement d'un athlète, quatrièmement d'un cultivateur, cinquièmement d'un sauveur, sixièmement d'un ouvrier, septièmement d'un vase et huitièmement d'un serviteur. Et ces messages, vous pouvez les écouter, les télécharger, ils sont disponibles sur le site. Ceci maintenant nous amène au chapitre 3, notre chapitre d'aujourd'hui. Et là, c'est le choc. C'est le choc. Parce que Paul est hyper honnête avec ce jeune pasteur dans son encouragement de persévérer dans le ministère. Alors je ne sais pas si vous utiliseriez la même technique que Paul pour encourager un jeune à persévérer dans le ministère. En somme, il va lui dire ceci. Donc je vous donne la réponse et ensuite on va analyser le détail, d'accord? Au chapitre 3, il lui dit ceci. Timothée, je te supplie de persévérer dans le ministère. Et sache que si tu persévères dans le ministère, et cela est un sous-entendu, que les choses vont aller de mal en pire. Je ne peux pas, Timothée, te garantir la paix, ni le repos, ni le bien-être. Alors cela ne veut pas dire que le ministère ne va pas être parfois doté de moments merveilleux, bénis de Dieu. Mais Timothée, cela n'est pas la norme. En fait, Paul dira dans le texte d'aujourd'hui, plus on avance dans le temps, et de pire en pire iront les choses. Timothée, je t'avertis. Persévère dans le ministère et prépare-toi au pire. Car les temps dans lesquels nous vivons sont mauvais et les choses vont aller mal. Et là, Timothée doit dire, super, j'y vais. Super, je continue. Ben oui, c'est exactement à quoi il appelle Timothée. C'est intéressant, non? Et on sait qu'il va lui donner une dose de réalité vis-à-vis du ministère. Regardez le chapitre 3 et le verset 12. Hein, c'est notre verset pour la semaine prochaine. Mais il lui dit, alors ça c'est l'avertissement qu'il donne à Timothée. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Timothée, persévère dans le ministère et tu seras persécuté. Il lui dit que les souffrances seront la norme. Chapitre 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Timothée reste dans le ministère et souffre. chapitre 4, verset 7. « J'ai combattu le bon combat. » Timothée, reste dans le ministère, ça va être un combat et une lutte et une guerre. Sache aussi, Timothée, que si tu restes, des gens vont t'abandonner. Ça va faire très mal. Verset 10 du chapitre 4. Car Démas vient au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné pour l'amour, pour le siècle présent. Et il est parti. Tu seras abandonné par ceux qui sont proches de toi. Le verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Timothée, reste dans le ministère et sache que tu vas être tout seul parfois et tout le monde t'abandonnera. Et verset 14, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Viens, reste dans le ministère, Timothée, et sache que tu seras infligé par tes amis les plus proches parfois. Et ça fera très mal. Et avec ça, Timothée dit, « Ouah, super ! Ah, je me réjouis de persévérer dans le ministère. » Eh bien, à vous ici ce matin, qui peut-être considérez le ministère plein temps, partiel, sachez qu'il y aura des moments très bénis, mais il peut y avoir des moments extrêmement difficiles dans les ministères aussi. Alors avec ça, prenons les versets 1 à 9 du chapitre 3 et lisons. Lisons le texte pour ce matin. 2 Timothée 3, 1. Paul écrit à Timothée et dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes chargées de péchés, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Alors voilà donc notre texte. Timothée, persévère dans le ministère, sachant que les derniers jours connaîtront, et voici le plan de notre texte ce matin, les derniers jours connaîtront trois traits particuliers. Nous allons voir ce matin que les derniers jours vont connaître une accélération du chaos, deuxièmement, une augmentation du mal, et troisièmement, une intensification de l'erreur. Et là, on va les prendre un à la fois. Alors, premièrement, nous voyons que les derniers jours vont connaître une accélération du chaos. Du chaos. Alors, regardez le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors, l'historien Barclay nous décrit, en fait, le contexte historique de notre texte de ce matin. L'Église primitive vivait dans l'expectative du retour de Jésus-Christ et de manière imminente. Ils pensaient que Christ reviendrait de leur vivant. Et ils adoptaient la perspective juive des derniers temps qui était divisée globalement en deux grandes parties. L'âge présent était considéré un âge mauvais, déchu. Et ensuite, l'âge à venir, c'était l'âge doré de Dieu où la terre serait refaite de manière parfaite. Bien sûr, avec le ciel en vue. Cet âge doré serait précédé d'une époque de terreur où le mal ferait une dernière tentative contre Dieu pour détruire les fondations morales du monde. Et c'est cette période que Paul décrit ici au verset 1. La Bible explique que le retour de Jésus-Christ sur terre va inaugurer, du moins c'est la manière que nous le comprenons, va inaugurer cette période qu'on appelle une période de 1000 ans de paix sur Terre, appelée le millénium, qui elle sera précédée d'une période abominable sur Terre, une période qu'on appelle la grande tribulation, qui durera 7 ans. Et c'est pendant cette période de 7 ans de tribulation que l'Antichrist fera son apparition et que le monde sera plongé dans une période de souffrance sans précédent. Vous pouvez lire Matthieu 24, 2 Thessaloniciens 2, Apocalypse 13, en fait tout Apocalypse qui décrit en détail cette période noire de cette tribulation de 7 ans avant la de grande tribulation. Et donc ce texte que nous voyons aujourd'hui, les versets 1 à 9 de 2 Timothée 3, décrit ce que j'appelle les prémices de cette période d'horreur intense qui précédera le retour de Christ. Regardez ce que Paul dit. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Le verbe est au futur, mais il faut noter que Paul définit, c'est intéressant ce que je vais dire, enfin, moi je trouve que c'est intéressant, Paul définit les derniers jours comme étant des jours dans lesquels se trouve déjà Timothée. Parce qu'il décrit une époque actuelle dans laquelle se trouvent Paul et Timothée. Puisque ce passage, en plus, s'applique à Timothée dans le temps présent, verset 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces sommes-là. » Donc il est en train de lui parler maintenant de son époque, mais qu'il décrit comme étant l'époque des derniers jours, et en particulier où il y aura des temps difficiles. Donc techniquement, les derniers jours sont une description de l'époque qui précède le retour de Jésus-Christ à la fin des temps, mais, écoutez bien, cette période des derniers jours a commencé à l'époque apostolique et terminera au retour de Jésus-Christ. Et nous savons que les auteurs du Nouveau Testament, eux, se considéraient être dans les derniers jours déjà. Par exemple, dans 1 Jean 2, 18, il est dit ceci, « Petits enfants, c'est la dernière heure, donc maintenant, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. » Donc ils se considéraient, eux, déjà dans la dernière heure. Ce que eux ne savaient pas, c'est que cette dernière heure allait durer plus de 2000 ans. L'âge de l'Église. Ça, ils n'avaient aucune conception du temps. C'est comme un télescope. Vous regardez un télescope, vous n'arrivez pas à voir les tranches de distance. On a l'impression que tout est encaissé en une distance. Et ils ne voyaient pas qu'il y avait au moins 2000 ans, mais nous ne savons pas quand Christ va revenir. Donc c'est 2000 ans plus cet âge qui s'appelle les derniers temps, ou cette dernière heure. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il dit maintenant que dans cette période qui s'appelle les derniers jours, qui maintenant dure de plus de 2000 ans, il y aura des temps difficiles. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'au cours de cette période des derniers jours, il y aura des périodes plus courtes qui vont entrecouper ces maintenant nous savons être plus de 2000 ans. Et ces périodes plus petites sont ce que Paul appelle des temps difficiles. Il y aura des périodes, je pourrais le dire ainsi, de galères particulières. Ça ne veut pas dire que les 2000 ans vont tous être galères, mais dans ces 2000 ans, il y aura des périodes et des endroits qui seront particulièrement difficiles. Et Paul écrivait à Timothée pour lui dire qu'ils vivaient, eux, dans une de ces périodes de difficultés. Nous le savons, parce qu'ils étaient sous une grande persécution à l'époque. Nous vivons aujourd'hui dans l'Occident une période de non-persécution. Nous, on a quand même l'impression d'être dans une période plus de facilité que de difficulté. Dans d'autres endroits du monde, peut-être eux se disent « Aujourd'hui, nous sommes dans une période de difficulté et pas de facilité. » C'est vrai, moi, j'y pense souvent à ça, parce que j'en parlais ce matin avec ma famille, Meg et James, en venant à la voiture. Je disais, c'est incroyable. Ce matin, je dois prêcher sur la difficulté d'un ministère, et moi, j'ai quand même l'impression que je vis un moment hyper béni. Et moi, ça me fait peur. Parce que je me dis, mais alors, John, peut-être tu vis aujourd'hui une période bénie, mais est-ce que ça va durer? Alors, peut-être que ça va durer, mais peut-être que ça ne va pas durer. J'en sais strictement rien. Mais le texte est clair. Que dans les derniers jours, et nous vivons dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et selon le verset 13, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mes amis, j'ai une mauvaise nouvelle à vous donner. Le monde va aller de pire en pire. Alors, pourquoi ? Pourquoi le monde va aller de pire en pire ? Eh bien, c'est à cause du deuxième point. Là, on a vu le premier point, c'est qu'il y a une accélération du chaos. La première caractéristique des derniers jours. Deuxième caractéristique, une augmentation du mal. Les choses iront de pire en pire. Pourquoi ? Parce que les hommes vont de pire en pire. Et là, c'est intéressant, Paul va nous donner maintenant le portrait des hommes méchants dans les derniers temps et va donner 19 caractéristiques des hommes méchants, des hommes impies qui vivent dans les derniers temps. Alors, c'est intéressant, il les liste sans vraiment les commenter. Une liste, tac, 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 tac. Et à fur et à mesure qu'on avance dans cette liste, comme je l'ai lu tout à l'heure, on commence à voir que les choses ne sont pas très belles autour de nous. Et je pense qu'en parcourant très rapidement cette liste, on va voir que cette liste caractérise vraiment notre monde d'aujourd'hui. Voici les traits des hommes qui vivent dans notre société. Il y en a 19. Numéro 1, il dit au verset 2, « Car, voici la raison qu'il y aura des temps difficiles, car, les hommes seront. » Alors voici une généralité. Les hommes, globalement, dans notre société, seront comme ceci. Comment ? Numéro 1, ils seront égoïstes. Littéralement, philauto, auto-aimants. Des hommes qui s'aiment eux-mêmes. Et je pense que cette première caractéristique explique toutes les autres, en fait. Ils s'aiment eux-mêmes avant tout. Ceci veut dire que les hommes, globalement, se mettent en première priorité dans leur vie. C'est moi leur roi. Tous les autres se sont godères à moi. Et je vais te dire, une fois que tu deviens le roi de ta propre vie, le chef de ta propre vie, tous tes choix seront faussés, car tu vas te dire que le monde devrait tourner autour de toi. Et ceci est un grand mal. Car la Bible appelle ceci de l'idolâtrie. Déjà dans Deutéronome 6, Dieu était clair par rapport à l'homme. Verset 4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un et le seul l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu veut que tu aimes lui avant même que tu t'aimes toi. Et c'est vrai, lorsque toi tu es le chef du monde, eh bien, les autres sont là pour te servir. Et ça, c'est l'égoïsme et l'arrogance extrême. Le chrétien devrait être différent. Philippiens 2, 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors voilà, un monde profondément égoïste. Numéro 2. Amis de l'argent. Philaguros, argos duquel nous dérivons le mot argent. Ils s'aiment eux-mêmes et ils aiment leur argent. C'est logique. Si tu t'aimes toi avant toute autre chose, alors l'argent deviendra ton deuxième amour, car l'argent te permettra de te faire plaisir au maximum. Si le but de ta vie, c'est l'hédonisme, c'est de te faire plaisir, bah ton argent va t'aider à te faire plaisir. Donc, tu t'aimes toi et tu aimes ton argent. Intéressant que c'était un des grands défauts, péchés des pharisiens, des chefs religieux. Luc 16 et le verset 14, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. C'est intéressant, hein, que les pharisiens sont décrits comme étant avares. Et nous savons qu'un Timothée 6 nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Le chrétien, lui, est très différent par rapport à l'argent. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas être riche. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens dans la Bible, de gens, des hommes de Dieu qui étaient extrêmement riches. Mais la grande différence, c'est qu'ils n'étaient pas possédés par l'amour de l'argent. Et une des manières qu'on voit si quelqu'un n'est pas possédé par l'amour de l'argent, c'est dans sa libéralité. Est-ce qu'il peut donner facilement son argent ? Et c'est exactement ce que Hébreux 13, 16 nous dit. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Un chrétien peut être riche, mais il donne généreusement. Ça montre qu'il n'est pas avare de l'argent. 3. Fanfaron. Fanfaron. Alors ça, c'est un mot très intéressant. Fanfaron, ça vous fait penser à quel mot ? Fanfare. C'est quoi une fanfare ? Ben une fanfare, c'est les musiciens qui descendent dans la rue et puis qui font du bruit. Et ça, ça attire l'attention. Parce que quand une fanfare descend, tout le monde s'arrête, on regarde par la fenêtre pour voir pourquoi il y a une fanfare. Mais une personne fanfaronne ou un homme fanfaron, ce sont des personnes qui sont pleines de paroles grandioses et exagérées, qui font le bruit d'une fanfare pour attirer l'attention. D'accord ? Voilà. Ben c'est normal, c'est logique. Si tu t'aimes toi en premier et ton argent, ben maintenant tu vas être remarqué. Donc tu vas être fanfaron. Voilà. Tu vas être fanfaron parce que tu veux que tout le monde te voie et t'applaudisse pour ce que tu es. Acte 5, 38, je pense, dit quelque chose. Et maintenant, je vous le dis. Non, je crois pas que c'est ça. Là, je me suis trompé de verset. C'est pas grave. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. C'est le même mot dans 1 Corinthiens 13, 1, d'une cymbale qui retentit « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Alors imaginez les hommes qui s'aiment eux-mêmes et qui aiment leur argent avec des cymbales, pa, 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 pour que tout le monde les remarque. Voilà le but ici. Le chrétien est très différent. Jacques 1, 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. » 4. Ça va vite, hein ? Il n'y en a que 19, d'accord ? 4. Hautain. Hautain. Alors ça, c'est aussi hyper intéressant. En grec, c'est le mot « hyper éphanos ». Hyper épiphanie. Une épiphanie, c'est ce qui brille. Une personne qui veut être perçue comme hyper brillante. C'est une personne qui se prend pour une épiphanie. Voilà. Très humble, comme démarche. D'accord ? C'est une personne qui exprime son orgueil par une attitude hautaine et qui veut dire, puisque c'est une sorte d'épiphanie, elle regarde aux autres comme étant des petits, des rien du tout, des nuls. Vous connaissez des gens comme ça ? Vous êtes dans leur présence ? Vous avez l'impression que vous êtes un nul total. Ben voilà exactement ce que Paul est en train de décrire ici. Et c'est intéressant que le chrétien, lui, a une attitude tout autre. 1 Pierre 5,5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Voyez-vous ? Le non-chrétien, lui, est hautain, le chrétien, lui, est humble. Il veut justement faire le contraire. Il veut élever les autres autour de lui et lui, s'abaisser. C'est l'opposé, mes amis. C'est l'opposé. 5. Blasphémateur, du mot blasphémos. Tout simplement, celui qui parle mal des autres, qui médit. Pourquoi ? Ben de nouveau, pourquoi est-ce qu'on parle mal des autres ? Ben c'est pour se faire passer plus intéressant. C'est pour que nous, on soit honorés. C'est pour ça qu'on critique les autres. Mais le chrétien, lui, devrait médire personne. Tite 3, 2, 1. Rappelez-vous d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, à être prêt à toute bonne œuvre et de ne médire de personne. On ne devrait pas médire. Point à la ligne. « 6. Autre trait de ce monde, rebelles à leurs parents. Désobéissance à leurs parents. Ceci montre que ce problème, en fait, commence à un très jeune âge. La désobéissance aux parents est un signe criant de notre ère. C'est intéressant, on revoit cette même pensée dans Romains 1:30, où de nouveau il parle au verset 28 que Dieu livre les gens qui ne sont pas intéressés à Dieu à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux mal, rebelles à leurs parents et dépourvus d'intelligence. C'est intéressant, je trouve que la rébellion d'un enfant vis-à-vis de ses parents est un signe de la fin des temps. C'est un mal. C'est un mal. Éphésiens 6:1 nous donne la perspective chrétienne. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Un enfant devrait obéir à ses parents. Et les parents chrétiens ne doivent pas céder aux caprices de leurs enfants et ni avoir peur de l'ère de notre temps. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que c'est un crime de punir un enfant dans certains pays. Oui, mais que dit la Bible? C'est intéressant, alors là c'est radical. Dans l'Ancien Testament, dans des cas extrêmes de désobéissance, de rébellion, où un enfant indocile était un rebelle total vis-à-vis de ses parents, tenez-vous bien, je vous lis Deutéronome 21-18, « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Et ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. » Alors je vous garantis que ces versets-là ne sont pas très populaires aujourd'hui. Ils ne sont pas répercutés dans le Nouveau Testament, on est d'accord. D'accord, on n'est pas en train de prôner l'application de ces versets, mais on prône l'obéissance des enfants. Ça oui. Pourquoi? Parce que la parole et le Nouveau Testament en parlent clairement. Et aujourd'hui, les parents chrétiens doivent faire très attention dans ce domaine. Ils doivent discipliner leurs enfants afin que ceux-ci les obéissent immédiatement et avec une attitude de joie. C'est une obéissance immédiate avec sourire. Avec sourire. Ils n'ont pas le luxe de laisser leur enfant faire ce qu'ils veulent. Et notez-le bien, la désobéissance de l'enfant à ses parents est un des traits des derniers temps. Le chrétien ne rentre pas dans ce jeu-là. Et je pense que nous devons, nous, en tant que chrétiens, donner l'exemple dans ce domaine. 7. Ingrat. Littéralement non reconnaissant. Et je pense que le contexte parle probablement des enfants vers leurs parents. C'est une génération encore où on voit que les enfants ne sont pas reconnaissants vis-à-vis de leurs parents. Non, ils ne sont pas reconnaissants par rapport à tout ce que leurs parents leur ont donné. Un enfant ingrat doit être discipliné afin qu'il apprenne à être ouvertement et verbalement reconnaissant envers ses parents. Il doit apprendre à dire merci. Et ça s'apprend, mes amis. Ça s'apprend. On apprend un enfant à dire merci. Et un trait marquant d'un enfant gâté, c'est qu'il n'est jamais satisfait et qu'il critique et maudit ses parents car il a l'impression qu'il ne reçoit jamais assez d'eux. Il a l'impression que le monde tourne autour de lui et que tout lui est dû. Mais c'est faux. C'est absolument faux. Déjà, c'est un privilège qu'il ait la vie. Ses parents lui ont donné ce privilège. Proverbe 29:15 nous en parle. Il dit « La verge et la correction donnent la sagesse ». Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Mais oui, si tu laisses ton enfant faire ce qu'il veut, ce sera la honte pour toi. Et un enfant doit même être appris à dire merci. 8. Irreligieux. On est qu'au point 8, vous vous rendez compte? Est-ce que ça décrit assez bien l'époque d'aujourd'hui, vous trouvez? Mais oui, on continue. Irreligieux, littéralement pas saint. Irrespectueux envers Dieu et les autres. Dernier verset dans 1 Jean, vous connaissez ? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Non. Dieu devrait être la priorité de nos vies, bien sûr. On vit pour Dieu. 9. Insensible. Littéralement sans affection naturelle. Quelqu'un qui n'aime pas, c'est quelqu'un qui est dur, qui est sans affection. Pas de compassion, pas de tendresse. Thessaloniciens 4, 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, voici ce que devrait être le chrétien. Vous n'avez pas besoin que vous en écrive, car vous avez vous-même appris que Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous, vous exhortons, frères, à abandonner toujours plus dans cet amour. Vous savez, mes amis, une des choses qui va nous marquer dans cette société, c'est notre amour mutuel. Jésus l'a dit, qu'on sera connu par notre amour, dans Jean 13. Et j'espère que c'est vrai, j'espère qu'on fait l'effort, qu'on a cet amour agapé, qu'on va vers ceux qui ont besoin d'être aimés et qu'on les aime. Oh, on n'est pas parfait, demandons pardon régulièrement, mais faisons tout dans notre pouvoir pour nous aimer et montrer au monde qu'on est totalement différent. Totalement différent. Et quand les gens viennent nous visiter, accueillons-les chaleureusement. Parlons avec eux. Voyons si on peut aider. Dites-leur que vous voulez prier pour eux. Priez pour eux. Dix, déloyaux. Littéralement, pas conciliants. Ils n'arrivent pas à se réconcilier. Le contexte pourrait parler d'un problème entre parents et enfants. Bref, ce sont des désaccords constants sans pouvoir pardonner, sans pouvoir se réconcilier. 11. Calomniateur. Alors ça, c'est un mot intéressant. C'est le mot diabolos. Diabolos. Calomniateur. Celui qui accuse faussement un adversaire. Le monde est champion pour soi. Ils accusent. Faussement. Bien sûr, si l'accusation est vraie, bon, c'est juste. Il y a les cours de justice. Bien sûr, on est pour la justice. Mais pas l'erreur. Et c'est intéressant que dans Éphésiens 4, le verset 25, nous sommes appelés à agir différemment. Il est dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous devrions parler la vérité. Le mensonge ne devrait pas exister dans la bouche d'un chrétien, parce que Christ est la vérité. Jean 14, 6, il est imbibé de la vérité. Pourquoi est-ce qu'il dirait un mensonge ? 12. Intempérant, acrates, sans contrôle de soi. C'est quelqu'un qui est totalement, comment dire, contrôlé par ses passions. C'est ses passions, c'est son feeling qui gère, qui mène sa vie. Et il n'arrive pas à mettre des barrières autour de lui, il n'arrive pas à se contrôler. C'était le problème des pharisiens. Dans Matthieu 23, 25, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Bon, ils avaient un look beau, mais à l'intérieur, ils n'arrivaient pas à contrôler leur passion parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais c'est intéressant. Dans 2 Timothée 2, 22, facile à vous rappeler, Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Un chrétien régénéré peut dire non. Peut dire stop. Un chrétien n'est pas esclave de ses passions. Et un des fruits de l'esprit dans Galates 5, c'est le contrôle de soi, la maîtrise de soi. 13. Ils sont cruels, pas dressés, pas contrôlés, brutaux, durs. 14. Ils sont ennemis des gens de bien. Littéralement, ils sont haïsseurs de ce qui est bon. Ou des choses qui sont bonnes. C'est intéressant, hein ? Un chrétien devrait aimer être avec ceux qui font le bien, ceux qui aiment le Seigneur, et il devrait aimer être dans des situations de bienfaisance. Eh bien, le monde est le contraire. Il aime le mal, et il aime être avec les gens qui font le mal. Bon, c'est des généralités, on est d'accord, hein ? ennemis de gens de bien. Voilà ce que eux ils sont. 15, ils sont traîtres. C'est intéressant que ces gens, tôt ou tard, ils vous disent qu'ils sont votre ami, mais un jour ou l'autre, ils deviennent traîtres. Ils ne seront pas loyaux, bien que vous le pensiez. C'est un peu comme Judas, n'est-ce pas ? C'était l'ami de Jésus pendant 3 ans, et à la fin, clac, il s'est tourné contre lui, il l'a poignardé. C'est intéressant que dans Matthieu 10, 21, Jésus nous dit que les gens de notre propre famille, à la fin des temps, nous trahiront. Ça fait très peur. 16, emporté. Une personne emportée, c'est quelqu'un qui ne réfléchit plus. Elle laisse ses émotions prendre le dessus, on l'a déjà vu, et diriger sa vie. C'est comme si sa conscience ne marche plus. Hein, cette conscience, c'est cette barre qui nous fait réagir lorsque les choses vont mal. Non, elle n'est plus là. Et donc, le mal va de pire en pire. Lisez Romains 1, et vous verrez que les gens n'ont plus de limites. Le mal s'accentue, il grandit comme une sorte de boule de neige qui ne s'arrête pas. 17, enflé d'orgueil. Intéressant, le mot, littéralement, c'est la fumée. C'est quelqu'un qui est enrobé d'une fumée pour être remarqué encore. Comme l'idée de l'épiphanie, là, c'est l'idée de la fumée. Numéro 18, aimant le plaisir plus que Dieu. Et voici le résultat final. Tous ces gens, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les gens préfèrent, ils aiment plus leur plaisir que Dieu. C'est l'hédonisme. Et le vrai problème, c'est le dernier point, le 19, ayant l'apparence de la piété, mais il renie ce qui en fait la force. Voilà la réalité de ces gens-là, de notre ère, de notre époque. Ils n'ont qu'une apparence, une forme de piété. À première vue, ils ont l'air authentiques et surtout par leur profession de foi assez claire. Certains pourraient même être peut-être dans l'église, c'est possible. Mais un examen attentif montrera que la puissance qui alimente la vie chrétienne est absente. Leurs œuvres réelles, le réel, c'est toute la liste qu'on vient de voir. C'est vraiment ça qui les caractérise. Mais le fruit d'un chrétien authentique, mais le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors c'est quoi qui fait cette force ? Là, il parle d'une force, n'est-ce pas ? Reniant la force, c'est quoi cette force dont il parle ? Eh bien c'est simple, Romains 1, 16 nous le dit. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Ces gens-là, dont ces traits caractérisent leur vie, sont des gens qui ne connaissent pas l'Évangile. Ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont jamais été touchés par Jésus-Christ, l'authentique Jésus-Christ, mort et ressuscité, Dieu incarné, celui qui a le pouvoir de pardonner leurs péchés, celui qui a le pouvoir de les ressusciter en Christ. Ils ne connaissent pas ce Christ-là. Ils sont peut-être religieux à l'extérieur, mais ils ne sont pas convertis à Christ. Et comment est-ce qu'on le sait ? Parce que Romains 6, 22 nous dit « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. » Voyez-vous, un chrétien dont le péché était pardonné en Christ va maintenant produire automatiquement la sainteté. Ça va être le fruit, disons, le fruit criant de sa vie. Alors, pas parfaitement. Il va monter, il va descendre, il va avoir des moments de sanctification, il va chuter peut-être. Mais il y a ce trait de progression de sainteté. Et ce péché va diminuer, la sainteté va croître. Et quelqu'un qui prétend être chrétien et qui ne connaît pas cette sainteté, on n'arrive pas à voir le fruit de la sainteté dans sa vie, on a le droit, de manière légitime, de se poser la question, est-ce qu'il est vraiment chrétien ? Est-ce qu'il est vraiment régénéré ? C'est intéressant, vous ne trouvez pas tout ça ? Alors que faut-il faire ? Comment réagir ? À ce genre de personnes. Maintenez-vous bien, regardez verset 5 à la fin. « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Éloigne-toi de ces hommes-là. Probablement, il faut appliquer en premier les versets 25 du chapitre précédent, redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, on confronte ces personnes, on leur dit « Écoute, là, ta vie n'est pas en règle. Ta vie ne colle pas avec le message de Jésus-Christ. Est-ce que tu connais vraiment le Seigneur ?» Et s'il y a rébellion, si la personne ne veut rien entendre, à un moment donné, il faut s'éloigner de cette personne. C'est ce qu'il dit. Pourquoi ? Ben parce que cette personne va t'influencer si tu ne t'éloignes pas d'elle. C'est 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cette personne va te corrompre, elle va peut-être corrompre l'Église si elle reste dans l'Église. Donc à un moment donné, surtout pour une personne qui se dit être chrétien, il va falloir être assez radical. S'éloigner de la personne ou éloigner cette personne de toi. Ça va ? C'est peut-être pas un message le plus joyeux, hein, ça je comprends, mais c'est biblique, ça c'est sûr. Donc, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Pourquoi ? Ben, premièrement, parce qu'il y aura ce genre d'hommes. Les hommes qui vont vraiment manifester un péché criant et qui pourrait vraiment influencer le chrétien, donc il faut prendre ses distances. Troisième et dernier point, non seulement il y aura une accélération du chaos, une augmentation du mal, mais troisièmement, il y aura aussi une intensification de l'erreur. Alors maintenant, Paul focalise plus sur les faux prophètes. Les faux prophètes, c'est vraiment intéressant. Tenez-vous bien, d'accord ? Ici, il décrit les tactiques pernicieuses de certains faux prophètes. Verset 6. Il y en a parmi eux, donc parmi ce groupe de personnes qu'on vient de décrire par ces 19 points, il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Waouh! Alors, certains de ces faux docteurs ont une tactique très claire. Ils visent les femmes qui sont à la maison, surtout lorsque leurs maris ne sont pas présents. En fait, c'est les mêmes tactiques qu'a utilisé le serpent vis-à-vis d'Ève. Vous vous rappelez ? Dans Genèse 3, que s'est-il passé ? Eh bien, le serpent s'est adressé à qui ? Ben, la femme. Le serpent était plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été parlé à l'homme ? Et il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, etc. Il passe par la femme, et la femme chute, et l'homme chute. Et c'est intéressant que ces faux prophètes utilisent la Bible, donnent l'impression d'être pieux, parlent de Dieu, parlent de Jésus-Christ, peut-être même parlent du salut, mais nous savons qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, parce que c'est un faux évangile. Et c'est intéressant. Ils vont de maison en maison, ils s'introduisent dans les maisons, selon le verset 6, et là ils captivent des faibles femmes. Alors, que se passe-t-il ici ? Le serpent, dans Genèse 3, était Satan déguisé, bien sûr. Et la femme a usurpé le rôle de son mari en prenant une décision qui aurait dû être prise au minimum en conjonction avec son mari. Car la Bible nous dit qu'elle a été créée pour être une aide à son mari et pas pour le mener. Lui était le leader désigné par Dieu. Et les méthodes de Satan n'ont pas changé. Il captive, littéralement, il capture comme un animal pour le dompter. Ici, il captive des femmes et des femmes faibles. Alors attention, il ne dit pas que les femmes sont inférieures aux hommes, mais qu'elles sont faibles. C'est intéressant, dans 1 Pierre 3,7, il est dit ceci. « Marie, montrez à vos tours de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible, qui veut dire que les hommes sont faibles et leurs femmes sont plus faibles. Ça n'a rien à voir avec leur égalité vis-à-vis de Dieu. C'est qu'ils sont simplement, ils sont créés différemment. Un homme et une femme sont différents. Ils ont des rôles différents. On le voit dans le corps. Les hommes et les femmes ont été créés de manière différente. Ils ont des rôles différents. Et ici, on a l'impression que Paul est en train de dire que les femmes, dans un certain sens, sont plus crédules que les hommes, plus susceptibles à l'erreur que l'homme. Alors, je sais que ce n'est pas très populaire hein, comme concept, ça je suis très d'accord. Mais regardez ce que 1 Timothée 2 nous dit. Il y a quand même une raison que la femme ne doit pas enseigner aux hommes. Il est dit dans 1 Timothée 2, 12, et vous pouvez regarder les messages que j'ai déjà donnés à cet effet, il est dit au verset 11 que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Pourquoi ? Car Adam a été formé le premier, donc c'était une raison créationnelle, et Ève ensuite, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc ici, il dit, voilà, une femme ne devrait pas enseigner un homme dans le contexte de l'Église. Pourquoi ? Parce qu'elle a été créée en deuxième, et deuxièmement, elle a été tentée avant l'homme. Donc, il y a une susceptibilité là. Son rôle n'est pas un rôle de leadership, mais un rôle d'aide. Voilà ce que la Bible enseigne sur ce point. Et là, il est en train de dire, dans notre texte, dans le verset 6, que certaines de ces femmes, en plus, sont chargées de péchés agités par des passions de toute espèce. Les femmes de proie sont surtout les femmes qui sont chargées par le poids de leurs péchés. Alors, ces femmes dont il parle savent qu'elles sont pécheresses. Elles cherchent, comme tout homme, comme toute personne, à être déchargées de ce poids, comme tout le monde. Et c'est précisément au moment où elles ressentent le poids de leur péché, que ces faux docteurs se pointent chez eux. Et leur donnent un message d'espoir. Et puisqu'elles cherchent un moyen pour être déchargées de ce fardeau de leur péché, eh bien, elle se laisse embarquer, ici, par n'importe qui, et se laisser prendre par tout vent de doctrine, par des nouveautés religieuses, par des mouvements, par des sectes, etc. Et là, il y a un manque total de discernement. Kent le dit comme ceci, en commentateur, « Possiblement névrosées, déprimées par la culpabilité de leurs péchés, elles se laissent facilement entraîner par des charlatans aux allures religieuses qui peuvent satisfaire leur désir d'une forme de religion sans exiger l'abandon du péché comme Ève. » Et là, il est dit, verset 7, « Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » L'idée du verset 7 n'est pas qu'ils sont toujours en train d'apprendre la vérité mais qu'ils n'arrivent pas à la saisir, mais plutôt que ces femmes sont constamment en train de fouiller et de débusquer dans une secte ou une autre, dans un mouvement ou un autre, en train de lire un livre ou une autre, ou de regarder un programme de télévision religieux ou un autre, sans un discernement, sans un filtrage, peut-être même sans consulter leur mari, si elles sont mariées. De ce fait, on a l'impression qu'elles sont en recherche, mais ne parviennent jamais à connaître cette vérité. Or, la Bible est claire. Jésus-Christ est la vérité, n'est-ce pas ? Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité est la vie. » La vérité se trouve en Christ, mes amis, en Christ. Et une femme, comme un homme, qui veut être déchargée de son fardeau, doit faire très attention à ces charlatans sectaires qui veulent leur offrir des choses sans fondement et simplement se tourner à Christ qui a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire et ce que Paul est en train de dire. Il n'est pas en train de dire que les femmes sont inférieures, ça n'a rien à voir. C'est qu'elles ont des rôles différents et c'est vrai que c'est un rappel. Il y a certaines sectes, même aujourd'hui. C'est intéressant, ils vont frapper aux portes quand ? Pendant la journée. Et là, souvent, ils trouvent des femmes solitaires qui sont susceptibles à écouter leurs mensonges. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que ça veut dire que les hommes ne se trompent pas? Bien sûr que non. Bien sûr que oui, enfin je ne sais pas comment répondre. Ça veut dire qu'ils se trompent, bien sûr qu'ils se trompent les hommes, d'accord? C'est ce que j'essaie de dire, d'accord? Bien sûr qu'ils se trompent les hommes. Mais voilà ce que le texte nous dit. C'est intéressant qu'ils ont une technique, une tactique ici, très claire, c'est très clair ici dans le verset 6. Et là on termine avec le verset 8 et 9, de même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Et là, il nous donne tout simplement, dans cette intensification de l'erreur, on a vu premièrement les tactiques des faux docteurs, deuxièmement un exemple de faux docteurs. Là, il mentionne deux hommes, Jannès et Jambrès. Qui étaient ces hommes? Eh bien, ils sont cités nulle part dans la Bible. On ne sait rien d'eux. Mais nous apprenons qu'ils ont résisté à Moïse. Alors, d'où est-ce que Paul a tiré ces noms? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Certains pensent que ces deux noms étaient préservés dans la tradition juive orale ou écrite et que par conséquent Paul les connaissait, donc de nom, parce qu'il avait lu. Ces deux hommes sont mentionnés dans un livre qui s'appelle le Targum de Jonathan, qui suggère que ces deux hommes faisaient partie ou étaient deux des magiciens qui ont contrefait les miracles de Moïse devant Pharaon. Le nom Jannès signifie celui qui séduit et Jambrès celui qui se rebelle. Et donc, on pense, c'est une supposition, que ces deux hommes ont essayé d'organiser un coup contre Moïse pour usurper son autorité. Certains pensent même qu'ils auraient aidé dans la fabrication du veau d'or dans Exode 32. Mais on ne sait pas, d'accord? C'est que des suppositions. Ce qui est certain, et c'est intéressant, dans le verset 16 du même chapitre, Paul va nous parler des écritures inspirées. Il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Donc, dans le même chapitre, il affirme que la parole de Dieu est inspirée et dans cette même parole, ces deux noms figurent, même si on ne les connaît pas. Donc, on conclut que de toute façon, Paul a reçu le nom de ces deux hommes par inspiration directe de Dieu. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on apprend d'eux? Très simple. Premièrement, ils s'opposaient à la vérité, de même que Jannès et Jambrès s'opposaient à la vérité. Deuxièmement, qu'ils étaient corrompus d'entendement, c'est ce qu'il dit. De même, ces deux os s'opposent à la vérité étant corrompus d'entendement. Ça veut dire qu'ils sont corrompus dans leur tête. Ils ne réfléchissent pas bien, ils sont tordus dans leurs pensées. Ils ne connaissent pas la vérité. Troisièmement, ils sont réprouvés de la foi. Tiens, j'ai dit tout à l'heure, est-ce que les hommes peuvent se tromper? Ben regardez, il y a deux exemples juste après, c'est marrant, je viens d'y penser, d'accord? Jannès et Jambrès se sont vraiment trompés. Ils sont réprouvés de la foi, ils pensent être dans la foi, mais ne le sont pas. Et Paul annonce qu'ils ne feront plus de grands progrès. C'est intéressant, alors là on a l'impression que les sectes continuent à s'éparpiller dans le monde, c'est vrai, mais vous savez, un jour, à la fin, tout s'arrêtera, et que la vérité sera clair et net. Et dans ce sens-là, ici, il dit, ils ne feront pas de plus grands progrès. Tôt ou tard, toute la vérité sera révélée et que la vérité demeurera, celle de Christ. Et donc, cinquième point, car leur folie sera manifeste pour tout. Tôt ou tard, leurs vraies couleurs seront révélées. Est-ce qu'on est tous déprimés, là? Tout le monde est déprimé? Non, j'espère pas. Mais ne vous trouvez pas intéressant le précis, le détail de la parole de Dieu? Moi, ça me fascine. Ça me fascine. Alors, quelles sont les conclusions? Écoutez, nous allons prendre la Sainte Cène maintenant, dans le temps que nous avons encore devant nous. Laissez-moi juste peut-être tirer quelques conclusions de ce texte, et ensuite on va passer directement dans la Sainte Cène. Premièrement, sachons que les temps difficiles vont s'accroître. Vous pensez que les temps sont durs aujourd'hui, on n'a rien vu encore, mes amis. La vie chrétienne n'est pas pour les faiblards. Ce n'est pas le moment de vous reposer. C'est le moment de nous affermir en vue des temps difficiles qui vont peut-être venir. Deuxièmement, nous voyons que les gens deviendront de plus en plus méchants. Je crois que la Bible est claire. Les temps vont s'empirer. Troisièmement, nous avons vu que l'erreur va être de plus en plus difficile à reconnaître. Verset 5, ayant une apparence de la piété, il renie ce qui en fait la force. Il y aura de plus en plus de gens qui auront l'apparence d'une authentique piété, mais c'est des faux. Et ça va être de plus en plus difficile à les reconnaître. 4. L'évangile est puissant et transforme une vie. Verset 5. Il renie ce qui en fait la force, mais il y a la force, il y a l'évangile qui transforme une vie. Et moi, je te demande aujourd'hui de considérer l'évangile. Peut-être que tu es là. Peut-être que finalement, tu te retrouves ici dans ce texte, dans cette liste, j'en sais rien. Mais s'il y a un doute par rapport à qui tu es en Christ, écoute, la Sainte Cène, c'est le moment idéal pour comprendre qui est Christ, son sacrifice. Il a donné son corps, il a donné son sang pour toi, pour te pardonner tes péchés. Cours vers Jésus-Christ. Cinquième chose, les tactiques des sectes restent les mêmes. Ils viendront frapper à la porte de votre domicile. Mesdames, je vous m'adresse à vous, c'est vrai. Attention, car les sectes vous cherchent en particulier. Lorsque vous êtes seul et lorsque vous êtes vulnérable, que vous soyez femme mariée ou femme célibataire ou femme seule, ils veulent vous avoir. Ils savent que vous êtes peut-être un appât plus facile qu'un homme. Et ils viendront vous trouver. Faites très attention. Très, très attention. Attention à vos moments de faiblesse et de vulnérabilité. Et aux hommes, pareil. Nous avons les moments de faiblesse. Nous avons les moments où nous sommes vulnérables. Attention à ces moments-là. Parce que nous aurons tendance à vouloir rejeter ce que nous savons être vrai et prendre ce qui est facile. Attention. Et si vous vous sentez faible et chargé, verset 6, alors n'allez pas parler avec ces charlatans pour un soulagement, mais courez à Jésus-Christ. Seul lui peut vraiment vous décharger. Je dirais dernièrement, acte 17, 11, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Restez fidèles aux Écritures. Vous savez, j'ai déjà dit, je sais que je me trompe dans certaines choses que je dis. Je ne sais pas où, parce que j'essaie d'être juste, j'essaie d'être équilibré dans ce que je dis. Mais à nous tous, de plonger notre regard dans les Écritures inspirées, et de les sonder et de les comprendre ensemble. Si vous avez des questions, discutons. Si vous avez des questions entre vous, discutez, ouvrez la Bible. C'est pour ça qu'on a les cellules de maison, pour pouvoir discuter les uns avec les autres et mieux comprendre les Écritures. Mes amis, c'est ça la clé. Et dernièrement, 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Je vais demander à Benoît si tu pourrais venir, peut-être le groupe de louanges aussi, on va distribuer la Sainte Cène.